Jackson était encore noir.
The Cure.
J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu, 102.2.
Bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et bonsoir.
Et bonsoir.
Et c'est l'heure du
Canu Info.
Du mercredi. Les Canu Info.
Canu Info.
Du mercredi.
Et aujourd'hui, des infos extrêmement rapides où on a du coup même pas fait de fil d'infos. Du coup, on s'est
Je vais quand même vous dire. Parce que, après une paire de brèves, on va parler de l'ensauvagement de la société française en l'occurrence, les éco-terroristes de plus en plus violents.
Ok, et après ?
Et après, bah, les histoires d'Israël qui, dont on a une enquête de Haaretz nous apprend que l'armée israélienne recrute des demandeurs d'asile pour les envoyer au front en échange de fausses promesses de régularisation.
Ok. Et du coup,
on va mettre la nappe des brèves. Et du coup, pourquoi il n'y a plus de nappe des brèves ?
Ah, la voilà. Ah, c'est moi qui passe en premier ?
Oui.
Ah, ok. Et ben du coup, on commence d'abord par attaques terroristes au Liban qui ont fait 3100 blessés et 21 morts en deux jours. Hier, c'était les beepers utilisés comme bombes. Et aujourd'hui, c'était les talkie-walkie. Alors, selon toute probabilité, mais je dis selon toute probabilité parce que du coup, avec l'explosion des talkie-walkie, ça change un peu la donne. Mais voilà, selon toute probabilité, les beepers auraient été piégés avant la livraison avec un explosif sûrement de type plastique et déclenché à distance via les réseaux de communication normaux. Le problème c'est que du coup ça c'était selon toute probabilité jusqu'à cet après-midi c'est les talkie-walkie qui ont explosé, ce qui du coup rend un peu l'opération plus compliquée parce qu'un talkie-walkie ça capte sur une distance plus courte, donc c'est un peu plus compliqué d'expliquer comment ça a pu se passer sur ces histoires de talkie-walkie. Peut-être qu'ils ont été très modifiés parce qu'un talkie-walkie c'est plus gros, donc c'est toujours possible de rajouter un truc à l'intérieur, enfin plus gros que juste une petite boule d'explosif. En tout cas, donc a priori il s'agit du voisin du Liban, Israël, qui aurait essayé de faire exploser des appareils électroniques utilisés massivement par le Hezbollah. Et toujours est-il que l'ONU s'est insurgée de l'utilisation d'objets civils comme armes de guerre, puisque parmi les blessés, il y a de nombreux civils. Ok.
Michel Barnier a évoqué la possibilité de peut-être augmenter un peu les impôts des riches. Je ne participerai pas à un gouvernement qui ne soit pas clair sur la question des impôts, a menacé Gérald Darmanin, le ministre sortant de l'Intérieur, mercredi sur France 2. Ah bah, tout le monde a dû flipper, hein. Moi-même, j'ai les miches qui font bravo, là.
Au Royaume-Uni, on se souvient que Keir Starmer a été élu pour débarrasser le pays de la droite, qui était une droite de plus en plus dure et de plus en plus cinglée, en vrai. Entre autres, il a été élu sur la promesse d'abandonner le projet d'envoyer les migrants au Rwanda pour qu'ils fassent là-bas leur demande d'asile. Et ben figurez-vous que ce même Keir Starmer, cette semaine, a trouvé que le pays dont il fallait s'inspirer pour la politique migratoire et la politique de qu'est-ce qu'on fait avec les demandeurs d'asile, ce pays est l'Italie et Giorgia Meloni. C'est-à-dire que plutôt que de s'inspirer de la droite conservatrice de son pays, il a préféré s'inspirer du néofascisme italien. C'est toujours bon de voter à gauche.
Radio Canu 102.2.
La plus rebelle des radios.
Canu Info.
Allez, ensauvagement de la société, des éco-terroristes de plus en plus violents, vous allez voir. Aujourd'hui, troisième opération de police pour dégager les militants et militantes perchés dans les arbres pour stopper le chantier contre l'A69. Pendant l'opération, un militant est tombé. Il a fait une chute de 5 à 6 mètres. Il a été transporté à l'hôpital. Les précisions diffèrent selon les sources. Alors, selon les uns, c'est-à-dire plutôt les flics, il serait tombé tout seul d'un arbre sur lequel la police n'était pas en train d'intervenir, suite à quoi il aurait été transporté à l'hôpital avec une fracture au fémur. Selon les autres, c'est les flics qui l'auraient fait tomber et il souffrirait de plusieurs fractures. Je dirais que les détails importent peu.
Attends.
Quoi, on m'entend pas ?
Non, ça grésillait vachement et je viens de comprendre, c'est quelqu'un qui a joué avec les gants.
Alors, je vais continuer avec une voix que j'espère vous entendrez mieux dans vos postes. Je dirais donc que les détails importent peu. C'est la troisième opération de police pour déloger les écolos perchés dans les arbres. Et c'est la troisième fois que des écolos tombent. Le 6 septembre déjà, lors d'une opération similaire, deux écureuils, comme on les appelle là-bas, sont tombés de 7 mètres. Les deux ont été emmenés à l'hôpital. Je ne sais pas dans quel état, parce que je dois dire que j'étais très pressé au moment de préparer les infos. Donc ça, c'était le 6 septembre. Et le 30 août aussi, la même. Opération de police pour les faire descendre des arbres. Chute d'un écolo, 8 mètres, 6 fractures à la colonne vertébrale ce coup-ci. Alors, le principe tactique de monter dans les arbres, c'est le même que celui de s'enchaîner quelque part en mettant ses bras dans des tubes de PVC qui font que de l'extérieur, on ne voit pas bien la limite de où sont les mains, les doigts et les poignets. Et que du coup, pour enlever tout ça, il faut disquer, mais c'est compliqué de disquer sans risquer d'infliger des blessures graves. Le principe de tout ça, c'est qu'on compte sur les flics pour ne pas trop risquer, justement, d'infliger des blessures graves. C'est qu'on pense que pays démocratique, image de droits de l'homme, tout ça, les flics auront le souci de ce genre de truc. Et c'est vrai que ça marchait, que ça a marché en France métropolitaine depuis quelques dizaines d'années. Alors je dis pas qu'il n'y a jamais eu des accidents, mais globalement, les flics étaient capables de se faire chier, de perdre du temps pour ne pas risquer de tuer ou de blesser sérieusement des militantes et des militants. Mais là, il faut quand même bien se rendre à l'évidence. Lentement mais sûrement, on sort de cette période. Cette histoire d'A69, et ça a l'air d'être une bonne étape là-dedans. À force de parler d'éco-terroristes, à force de banaliser la violence répressive dans toutes les circonstances, les flics ont juste de moins en moins de scrupules à infliger des blessures graves comme à Sainte-Soline ou à tuer comme à Sivens. Alors ce dernier exemple de Sivens est peut-être un peu malhonnête parce que le flic qui avait lancé la grenade ne pensait certainement pas qu'il allait tuer quelqu'un à ce moment-là. Mais il a quand même pris le risque de ça. Alors que les flics qui ont mené leurs opérations sur le chantier de l'A69 n'ont tué personne, mais ils en ont évidemment pris le risque et c'était bien plus évident, les flics qui intervenaient à ce moment-là, ils étaient obligés d'y penser. Et si les médias étaient occupés à autre chose qu'à penser à la composition du prochain gouvernement Barnier, si on entendait un peu plus parler de ces expulsions-là, on aurait évidemment le discours des syndicats de flics et du ministère de l'Intérieur pour nous dire que sur le chantier de l'A69, les militants et militantes sont ultra violentes, que les flics n'avaient pas le choix. Mais entre les flics et écolos, c'est toujours la même histoire. Les militants ultra-violents réussissent effectivement à infliger des blessures ultra graves, mais uniquement à elles et eux-mêmes.
Radio Canu 102.2.
La plus rebelle des radios.
Canu Info.
Alors, un petit agenda.
Parce qu'on ne les fait plus à la fin maintenant.
Milieu d'info.
Ouais, de milieu d'info. En fait, c'est l'annonce d'une manif. Alors, du coup, c'est demain à 12h30, manifestation des contractuels et titulaires PJJ. Du coup, demain à 12h30, devant le tribunal de Lyon, contre les licenciements des 600 collègues contractuels et la dégradation des conditions de travail dans le social. On compte sur votre soutien.
Canu Info.
Et alors voilà qu'on apprend aujourd'hui, enfin hier si on lit assez l'hébreu pour lire les articles de Haaretz, que les responsables de la sécurité israélienne promettent un statut de résident permanent à des réfugiés qui accepteraient de participer à des opérations militaires à Gaza. Alors c'est déjà assez dégueulasse comme ça, mais en plus la promesse n'est jamais tenue. Après l'attaque du 7 octobre 2023, au cours de laquelle 3 demandeurs d'asile ont été tués au milieu des 1100 et des brouettes israéliens, de nombreux réfugiés se sont portés volontaires pour travailler dans les camps ou dans les centres de commandement israéliens. Les responsables de la défense du pays ont alors compris qu'ils pouvaient utiliser l'aide des demandeurs d'asile et exploiter leur désir d'obtenir un statut permanent en Israël à titre d'incitation. C'est ce que raconte donc Haaretz dans son enquête. Le journal israélien révèle notamment l'histoire d'un certain A. Arrivé dans le pays à 16 ans, il reçoit un appel peu après le 7 octobre d'une personne qui se présente comme un officier et qui lui ordonne de se présenter à la force publique. Et là, il raconte, ils m'ont dit qu'ils cherchaient des personnes spéciales pour rejoindre l'armée. Donc le gars, il était même pas encore majeur à ce moment-là. Après plusieurs réunions, un officiel lui aurait dit « Si vous allez dans ce sens, vous pouvez recevoir des documents de l'État d'Israël, c'est-à-dire une autorisation de séjour en bonne et due forme et permanente. » Lui, en l'occurrence, il a longtemps hésité, mais il a refusé. Des sources militaires citées par Haaretz confirment que l'administration de la Défense a fait appel à des demandeurs d'asile dans diverses opérations. Et la promesse de papier, après, eh ben, elle est juste jetée aux oubliettes. Aucune procédure qui aurait visé à accorder le statut de réfugié aux demandeurs d'asile qui se sont engagés dans l'armée n'aurait abouti, toujours selon Haaretz. Le journal révèle par ailleurs que le ministère de l'Intérieur a étudié la possibilité de recruter les enfants des demandeurs d'asile scolarisés en Israël. Et rappelle que le gouvernement a déjà autorisé ceux des travailleurs étrangers à servir... a déjà autorisé les enfants des travailleurs étrangers à servir dans son armée, toujours en échange de l'octroi du statut de résident permanent à un membre de leur famille. Alors voilà, après Prigojine qui allait chercher des recrues dans les prisons russes, voilà que l'armée israélienne a une nouvelle idée d'endroit où trouver des gens assez désespérés pour préférer faire la guerre plutôt que de rester dans la situation où ils sont. Mais dans le cas d'Israël, il me semble qu'il y a une dimension en plus. Et c'est sans doute la même qui fait que ce conflit, même si c'est vrai qu'il fait moins de morts que d'autres conflits dont on parle moins, ce conflit concentre l'attention du monde entier. Parce que les Israéliens, on l'a déjà bien compris, ont le soutien de tous les gouvernements occidentaux. Soutien à peu près inconditionnel, alors bien sûr avec des nuances, avec à des moments des condamnations morales, mais soutien quand même assez important pour leur permettre de massacrer une quantité incroyable de civils depuis un an, sans qu'aucune sanction n'ait été prononcée. Et la raison principale de ce soutien, c'est que les Israéliens sont, entre guillemets, comme nous. C'est-à-dire qu'en dépit de la géographie, les Israéliens, c'est des Occidentaux. Les Américains, les Français, les Anglais, même les Allemands, tous les citoyens des pays riches qui lisent Shakespeare, qui regardent CNN ou qui écoutent Taylor Swift se reconnaissent dans les Israéliens. Par contre, on se reconnaît bien moins dans les demandeurs d'asile africains. Alors c'est pas qu'une question de couleur de peau, bien sûr, c'est un ensemble de facteurs qui font que les gens prospères, éduqués, et dont les soucis sont souvent n'ont souvent pas grand-chose à voir avec la simple survie, ces gens-là ne s'identifient pas si facilement avec des migrants, prêts à courir beaucoup de dangers pour sortir de leur pays, pas blancs, ça compte quand même, et crevant plus ou moins de faim. Des gens dont la vie ne vaut finalement pas très cher, bien moins cher en tout cas que la vie d'un citoyen d'un pays occidental. au niveau de la société israélienne, eh ben, c'est la même chose. Quand le gamin de la voisine part au front ou se fait buter, c'est un problème. C'est un truc qui concerne les citoyens israéliens. Et c'est un truc qui, à force, peut finir par rendre le gouvernement impopulaire. Par contre, si c'est un migrant, qu'on est déjà bien gentil d'avoir laissé entrer sur le territoire, qui se fait tuer à Gaza, et ben, c'est bien moins grave. Surtout que depuis un an que ça dure, personne n'était au courant de toute cette histoire, donc en fait, on ne le savait même pas. La guerre à Gaza, depuis le début, c'est la démonstration de la différence de valeur des vies selon de la vie de qui on parle. Cette histoire de demandeurs d'asile envoyés au front contre des promesses jamais tenues, c'est juste une facette de plus de cette démonstration.
Canu Info. Du mercredi.
Ah, attention, là j'ai l'impression. Ah, mais oui, je crois que je suis en train de recevoir un message.